Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et au divinum erum signatorum, centum quadraginta quod tuam millia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient signés, ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Chers frères, cette fête de la Toussaint occupe un des plus hauts rangs parmi les fêtes que célèbre l'Église. Saint Bernard l'appelle un jour de fête par excellence. Les autres fêtes ont en effet pour objet quelques saints ou quelques mystères, tandis que cette fête d'aujourd'hui est appelée et doit être appelée la fête de tous les saints, c'est-à-dire de tous ceux qui jouissent de la béatitude éternelle, de ces âmes qui ont subi les épreuves de cette vie et qui, ayant combattu le bon combat, ont remporté la victoire et mérité la couronne. À ce titre, combien cette fête de la Toussaint nous apporte de grands encouragements dans notre vie chrétienne. Tout d'abord, parce qu'en mettant sous nos yeux toutes ces âmes qui ont pleinement réussi leur vie, cette fête nous rappelle avec force que nous n'avons été créés que pour devenir des saints. La sainteté est la seule façon que nous ayons pour satisfaire cette aspiration foncière de tout notre être vers le bonheur. Car parmi les désirs des hommes, il y a toujours, à la base, au fondement, cette recherche du bonheur. Et bien sûr, il s'en faut de loin que tous le trouvent là où ils le cherchent. Nous savons, nous, par la raison, et plus encore, par la lumière de la sainte foi, que ce bonheur ne peut être trouvé qu'en Dieu, seule la possession de Dieu peut étancher cette soif du bonheur que nous ressentons tous. Possession de Dieu par notre intelligence, qui est faite pour connaître la vérité, et surtout la vérité suprême, et possession de Dieu par notre volonté, qui est faite pour aimer et vouloir le bien, et plus que tout, le souverain bien. Si par hypothèse, Dieu nous avait créés sans la vie surnaturelle de la grâce, dans l'état de pure nature, les âmes justes auraient eu, après leur mort, pour récompense, de connaître et d'aimer Dieu. Mais il ne l'aurait alors connu que du dehors, pour ainsi dire, par le reflet de ses perfections dans les créatures. Un peu à la manière des plus grands philosophes de l'Antiquité, mais cependant d'une façon plus certaine et sans mélange d'erreurs. Cette connaissance aurait été purement abstraite, atteinte par l'intermédiaire des choses et de concepts limités. Saint Paul parle de connaissance dans le miroir des créatures. Nous aurions connu Dieu comme cause première de toutes choses, tant des esprits que des corps, et nous aurions atteint ces perfections infinies par leur reflet dans la création. Et alors, notre intelligence humaine n'aurait pu s'empêcher de dire « Ah, si je pouvais voir ce Dieu !» Source de toute vérité et de toute bonté, mais ce désir serait resté inefficace. Or, de fait, la miséricorde infinie de Dieu nous a appelés beaucoup plus haut, à la vie surnaturelle. Notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit « La vie éternelle, c'est qu'il vous connaisse, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ » Saint Paul nous explique ces paroles en disant « Aujourd'hui, nous voyons Dieu dans un miroir, d'une manière obscure, énigmatique, mais alors nous le verrons face à face. » Et Saint Paul ajoute « Je ne connais maintenant Dieu qu'imparfaitement. » Mais alors je le connaîtrai comme je suis moi-même connu de lui. » L'Église a défini que cette doctrine révélée doit s'entendre d'une vision immédiate de l'essence divine, sans l'intermédiaire d'aucune créature préalablement connue. Par le regard de notre intelligence, surnaturellement fortifiée par la lumière de la foi, par la lumière de gloire, nous verrons Dieu mieux que nous ne voyons de nos yeux de chair les personnes avec lesquelles nous parlons. Nous le verrons clairement comme un objet plus intime à nous que nous-mêmes. Ici-bas, nous connaissons surtout de Dieu ce qu'il n'est pas. Nous savons qu'il n'est pas matériel, qu'il n'est pas changeant, qu'il n'est pas limité, ni borné non plus. Mais au ciel, nous le verrons tel qu'il est dans son essence infinie, dans sa vie intime qui est commune aux trois personnes. Nous le verrons ainsi immédiatement comme il se voit. Nous l'aimerons comme il s'aime, nous vivrons éternellement avec lui. Entre Dieu et nous, il n'y aura même pas l'intermédiaire d'une idée, nous dit saint Thomas, car aucune idée créée et donc finie ne peut représenter tel qu'il est en lui-même ni Dieu, ni sa vérité infinie, ni non plus son amour sans limite. Et cette contemplation de Dieu que nous aurons, nous ne pourrons l'exprimer par aucune parole, pas même par une parole intérieure, comme lorsqu'on est absorbé par la vue d'un spectacle qui nous ravit. Nous verrons aussi l'infinie fécondité de la nature divine, s'épanouissant en trois personnes, l'éternelle génération du Verbe, splendeur du Père et figure de sa substance, et l'ineffable spiration du Saint-Esprit, terme de l'amour commun du Père et du Fils, qui les unit éternellement dans la plus absolue diffusion d'eux-mêmes. Nous contemplerons aussi immédiatement l'union intime et indissoluble de la personne du Verbe et de l'humanité du Sauveur. Nous verrons par là même toute la splendeur de la maternité divine, de sa médiation, le prix du salut des âmes et la richesse illimitée de ces mots si vite prononcés, la vie éternelle des élus. Nul ne peut dire quelle sera cette joie qu'engendrera cette vision absolument immédiate, qui sera comme une fusion spirituelle de notre âme, de notre intelligence et de l'essence divine. Une union transformante ininterrompue, une communion intime et parfaite que rien ne pourra plus diminuer. L'amour qui résultera de cette vision sera un amour de Dieu si pur et si fort que rien ne pourra l'amoindrir. Il nous attirera irrésistiblement à lui. Nous ne pourrons nous détourner de lui. Par cet amour, nous nous réjouirons surtout que Dieu soit Dieu, infiniment saint, juste, miséricordieux. Nous adorerons tous les décrets de sa providence en vue de la manifestation de sa bonté. Premier encouragement, donc, la pensée du ciel, de ce bonheur sans fin qui dépasse toutes nos aspirations et qui est bien propre à nous faire relativiser toutes les souffrances de cette vie, tous les efforts que nous devons faire pour vivre une vie vraiment chrétienne unie à la croix de notre Seigneur. Comme nous avertit saint Paul, les souffrances de ce temps sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Autre encouragement que nous procure cette fête, elle nous montre une nuée de témoins, toujours selon le langage de saint Paul, qui sont une preuve irréfragable que se sauver est loin d'être chose impossible. Nous venons en effet d'entendre pendant la lecture de l'Épître le dénombrement de tous ceux que l'apôtre saint Jean a vus marqués du sceau de l'agneau. Parmi les seuls enfants d'Israël, le nombre en était de 144 000. De la tribu de Judas, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de celle de Gad, 12 000, et ainsi des autres tribus. Saint Jean vit ensuite une grande multitude que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et en présence de l'agneau, vêtus de robes blanches et portant des palmes dans leurs mains, et ils criaient à voix haute en disant « Gloire à Dieu et à l'agneau ». Cette vision doit nous inspirer une grande confiance. C'est d'abord, pour la seule nation d'Israël, un nombre immense de prédestinés, car le nombre que le langage mystérieux de la Sainte Écriture a employé, celui de 12 fois 12 000, signifie une multitude immense. 12 étant un chiffre parfait, qui est ici multiplié par 1 000. Il s'agit donc d'un très grand nombre d'élus, pour chaque tribu. Ce qui doit nous étonner et calmer est cette répartition des élus dans toutes les tribus d'Israël. Que ce soit la tribu royale de Juda ou de la tribu sacerdotale de Lévi, des tribus aristocratiques et privilégiées de Joseph et d'Éphraïm, la tribu belliqueuse de Benjamin, la tribu lettrée et studieuse de Nephtali, les tribus agricoles d'Issacar et d'Asser, la tribu marchande de Zabulon, les tribus misérables de Siméon et de Ruben, tribus nomades et vagabondes qui, avec de maigres ressources, faisaient leur petit commerce de résine, de myrrhe et d'aromates. Tous, indistinctement, ont fourni au ciel leur contingent d'élus, témoignage aussi rassurant qu'incontestable qu'il y a des saints dans tous les états, dans toutes les conditions. Ensuite, dit l'apôtre, j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Quand il s'est agi des enfants d'Israël, l'Esprit Saint a pu encore alléguer un chiffre. Mais quand il s'agit du reste des élus, impossible de compter, il n'y a plus de nombre qui puisse suffire. Turbam maniam quam dinumerare nemo poterat. Une grande foule que personne ne pouvait compter. Il s'agit ici de la gentilité convertie à la foi par la prédication des apôtres et de leurs successeurs tout au cours des âges. Faisons une remarque cependant au sujet de cet épître. Toutes les tribus n'ont pas été citées. L'une d'entre elles a été passée sous silence. C'est la tribu de Dan, de laquelle, selon la tradition, doit sortir l'Antéchrist. Et c'est la première leçon que nous tirerons de cette épître, la dernière leçon que nous tirerons de cette épître avec le cardinal Pi. N'ayons rien de commun avec cette tribu, tribu puissante, tribu tous les jours plus nombreuse, plus audacieuse, plus turbulente, tribu ennemie de Jésus-Christ et de l'Église, tribu inspirée de l'esprit de Satan, et dont l'activité, comme celle de Satan, est d'autant plus violente qu'elle sait n'avoir que peu de temps. Si nous voulons jouir du bonheur du ciel, nous devons nous tenir éloignés de cette tribu, coupés au maximum avec l'influence de ce monde maudit de Dieu. Et pour cela, le plus sûr moyen est de pratiquer le programme de sainteté établi par notre Seigneur dans l'Évangile de ce jour, à savoir les béatitudes par lesquelles nous aurons par avance comme un avant-goût du ciel. Tâchons donc de nous détacher toujours davantage des biens de ce monde, passés sans en en usant sans s'y attacher, n'usant qu'au minimum des commodités dangereuses, comme les écrans par exemple, que ce monde nous procure. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Opposons aussi aux contrariétés de la vie de toutes sortes une vraie douceur et une grande patience. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Que nos péchés, par contre, nous tirent les larmes du cœur dans une vraie contrition. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Mais nous ne serons pas pour autant de ces chrétiens mièvres et indolents, professant un christianisme commode, comme dirait le cardinal Pi, qui doute de lui-même, qui n'a ni le courage ni la dignité de ses convictions, sans aucune énergie, là où il pourrait et devrait défendre et venger les droits de Dieu, outragé dans ce monde apostat. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous serons encore compatissants envers notre prochain, combien on s'y peut reçu. Dieu nous fait un devoir de prier pour le salut des pécheurs. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous aurons également à cœur de nous mortifier, de faire pénitence, car comment pourrons-nous tenir dans ce monde impur, sans esprit de pénitence, sans pratique de mortification ? Qui peut s'imaginer subsister dans une vie commode et sensuelle ? Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous serons pareillement nous pardonner du fond du cœur les uns aux autres. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et enfin, dernière béatitude, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Pour nous qui savons qu'il n'y aura de règne éternel que le règne de Jésus-Christ et de ceux qui lui appartiennent, nous tâcherons d'accepter ici-bas, comme ont fait tous les saints, les sarcasmes, les outrages, les mépris, toutes les persécutions que Dieu permettra, et ceci, et ce n'est pas qu'une hypothèse, jusqu'au sang s'il le faut. Car un jour, le Sauveur reviendra pour être glorifié dans ses saints. Il apparaîtra alors admirable dans tous ceux qui auront cru en lui. Que la Vierge Marie nous donne la grâce d'en être, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.